Il est 8h sur Radio Chablais et aujourd'hui encore, personne ne sait où disparaissent ces Tupperwares. Peut-être qu'ils reviendront un jour, qui sait, peut-être pas.
Surtout les couvercles.
Ouais, surtout les couvercles. Quelle galère.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Décidément, pardon Martine, j'allais écorcher ton prénom. Martine Vissinaire nous présente le journal, bonjour.
Bonjour Colline, bonjour à tous. La commission interparlementaire de contrôle de l'hôpital Riviera-Chablais a présenté mardi son rapport annuel 2024 au Grand Conseil vaudois. Un rapport qui confirme une situation financière encore fragile, avec une perte de 6,9 millions de francs, malgré des efforts d'économie jugés importants. L'objectif reste un retour à l'équilibre d'ici 2028, mais un effort supplémentaire de 10 millions sera nécessaire. Ce à quoi il faut intégrer la situation délicate du canton de Vaud, qui, malgré l'acceptation du budget 2026, prévoit de nombreuses économies pour l'an prochain. Une situation qui impactera forcément l'HRC, comme nous le confirme Aurélien Clerc, député PLR au Grand Conseil vaudois et président de la commission interparlementaire de contrôle de l'HRC.
L'HRC finalement sera touché par les PIG qu'il reçoit. Ça a paru dans les médias au courant d'été que le département de la santé allait faire des coupes dans beaucoup d'hôpitaux. Et durant l'été, la direction de l'HRC, avec notamment tous les hôpitaux vaudois, on peut rencontrer le département et trouver finalement un arbitrage, trouver un consensus où il y avait moyen de faire des économies. Finalement, l'hôpital touchera un petit peu moins pour l'année prochaine, mais sans remettre en question ce qu'il amène à la population chablaisienne, vaudoise et valaisanne.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Notez que sur le plan médical, le rapport annuel évoque des avancées qui sont toutefois à saluer, comme l'ouverture d'une stroke unit et l'amélioration de la prise en charge des patients. À l'approche des fêtes, la Chambre valaisanne de l'agriculture invite les viticulteurs à contacter le 143, la ligne téléphonique de la main tendue. Et le message est mal passé auprès de certains professionnels. Ils demandent des actions politiques plutôt qu'une hotline et s'en sont pris à la fêtière sur les réseaux sociaux. Pourtant, dans le contexte de la crise agricole, la Chambre valaisanne a constaté une hausse du nombre d'appels passés à ses collaboratrices d'un à deux par semaine à plus de 15 ces derniers mois, ce qui les a poussés à faire une collaboration avec le 143. Mais dans ce milieu, la santé mentale reste tabou, déplore Charlène Taramarca, la présidente d'Action Agricole Valais.
C'est pas quelque chose dont on parle. En fait, je pense que le paysan doit toujours être solide, on lui en demande beaucoup. Et puis, on pose jamais vraiment la question si lui va bien, mais c'est si les cultures vont bien, si le cheptel va bien, si les vignes vont bien. Mais en fait, l'être humain derrière, souvent, il est laissé là sans être pris en considération. Et à mon sens, c'est pas normal. Voilà.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM, Charlène Taramarca a appelé les viticulteurs au calme et souligné que la démarche de la Chambre valaisanne d'agriculture se voulait bienveillante. 10 ans après un audit sévère, la protection de la jeunesse vaudoise progresse, mais le travail est loin d'être terminé. La Cour des comptes salue une meilleure gouvernance et un suivi plus structuré des dossiers au sein de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. Mais elle critique la lenteur des réformes et pointe encore des failles importantes, notamment dans l'écoute de l'enfant, l'implication des parents et la gestion de situations complexes. Avec plus de 8000 mineurs suivis chaque année, la Cour appelle désormais à privilégier la qualité des intervention plutôt que le simple volume des dossiers. Le Messager, hebdomadaire basé à Châtel-Saint-Denis depuis plus de 100 ans, ferme ses portes. L'équipe a mis en page le dernier numéro jeudi. Son propriétaire, le groupe Saint-Paul, éditeur de La Liberté, avait annoncé la fin du journal en avril. Le Messager était centré sur le district fribourgeois de la Veuvaise. À partir du 1er janvier, l'hebdomadaire sera intégré au journal La Gruyère, qui paraît 3 fois par semaine. La décision découle de considérations économiques, mais aussi de la volonté de simplifier le portefeuille de titres du groupe établi à Fribourg. La Suisse a sa toute première stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée. Le Conseil fédéral l'a adoptée hier. Cette stratégie vise d'abord à mieux identifier le crime organisé en sensibilisant les autorités à tous les niveaux pour détecter et signaler des activités suspectes. Une meilleure collaboration entre la Confédération, les cantons, les communes et les pays étrangers est aussi prévue. De même qu'un renforcement des outils législatifs de lutte contre le blanchiment d'argent. Le ministre de Justice et Police, Béatrice Tientz dévoile comment cette stratégie va se concrétiser.
Nous allons mettre au travail avec les cantons pour élaborer d'ici à la fin de 2026 un plan d'action national visant à lutter contre la criminalité organisée. Ce plan va concrétiser les mesures définies dans la stratégie. Il établira précisément les compétences et fixera un calendrier. Nous allons aussi préparer un projet législatif au niveau fédéral que nous allons envoyer en consultation à la fin de 2027.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier. Les États-Unis ont annoncé hier soir avoir conclu un accord avec des entreprises pharmaceutiques, dont Roche et Novartis, pour réduire le prix des médicaments. En échange d'investissements, les entreprises seront exemptées de droits de douane pendant 3 ans. Les deux entreprises helvétiques ont également réaffirmé leur intention d'investir plusieurs milliards de dollars aux États-Unis pour la production de médicaments. Les touristes devront bientôt verser 2 euros pour avoir accès à la fontaine de Trevi à Rome. Seuls les résidents de la ville étant exemptés a annoncé hier le maire de Rome. Le monument qui attire chaque jour de vastes foules restera visible gratuitement à distance, mais l'accès de proximité sera réservé aux détenteurs de billets. Et on termine avec du tennis. Stan Wawrinka prendra sa retraite sportive à la fin de l'année 2026. Le Vaudois de 40 ans, ex-numéro 3 mondial et vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem, l'a annoncé hier sur ses réseaux sociaux. Toujours capable de coups d'éclat sur le circuit, comme lors des derniers Swiss Indoors de Bâle, Wawrinka a malgré tout reculé ces dernières années dans la hiérarchie mondiale.